ladies and gentlemen, dear journalists and friends, welcome to the press conference for BlacKkKlansman, a Spike Lee joint which world premiered last night in Cannes to stunning ovation.
La grande table à Cannes, suite de ce troisième numéro à 13h15, la séquence des critiques menée par Michel Simon, en dialogue aujourd'hui avec la journaliste italienne Cristina Piccino. Mais d'abord, un Cannes dans le noir cette année, c'est l'autre actualité. Après MeToo, le retour du slogan Black Lives Matter à l'écran, avec le nouveau long métrage Événement de Spike Lee, vous l'entendiez, présenté avant-hier en sélection officielle. Adaptation d'une histoire vraie, celle de Ron Stallworth, le premier policier afro-américain à s'être infiltré dans les rangs du Ku Klux Klan, dans la ville de Colorado Springs. La présence aussi à Cannes ici pour une masterclass de Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, qu'Henri Leblanc de l'équipe de la Grande Table vous présentera dans une dizaine de minutes. Et les actions du collectif monté par notre première invitée, l'actrice Aïssa Maïga, auteure de Noir n'est pas mon métier, qui paraît cette semaine au Seuil. Le constat, l'invisibilité de la diversité pourtant bien présente dans nos sociétés, dans le cinéma occidental, le racisme et le sexisme à peine voilés du métier. Avant la remise des premières Cannes dans le noir par l'Association pour l'Avenir, qui récompense un cinéma contribuant à la promotion d'une société plus inclusive, Aïssa Maïga, actrice dans « Il a déjà tes yeux » de Lucien Jean-Baptiste, sorti l'an passé, montra les marches du palais entourée de 16 actrices avec des étoiles noires plein les yeux.
Faut que je vous dise quelque chose. C'est à propos du bébé.
Je t'en donnais un qui était malade.
Mais non.
Mais non. Tu vas au mal, j'avais raison de m'inquiéter.
Ah non, non, maman, le bébé va très très bien.
Mais c'est quoi alors? Ils t'ont donné un Congolais?
Ben non.
Mais je t'avais dit pas de Congolais. Avec les Congolais, c'est toujours un problème, n'est-ce pas?
J'ai jamais dit qu'il était Congolais.
Ma chérie, dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais.
Pourquoi tu l'appelles Lamine?
Mais c'est son prénom, non?
Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour.
Cette montée des marches ce soir à 16 femmes, un 16 mai. Quel symbole vous vouliez porter sur le tapis rouge?
C'est le symbole d'une solidarité de femmes, d'une solidarité d'actrices aussi. Et c'est l'idée de, après avoir écrit ce livre, Noir n'est pas mon métier, c'était l'idée de revenir dans un des hauts lieux du cinéma en France. On a deux rendez-vous qui sont parmi les plus grands, qui sont les Césars et le Festival de Cannes. Et pour moi, c'était important qu'on soit sur le tapis rouge parce que nous sommes des actrices et c'est ce qu'on affirme haut et fort dans ce livre. Et c'est aussi l'idée de continuer d'interpeller la presse française, mais aussi de donner l'occasion à la presse internationale, à la presse étrangère de s'emparer de ce sujet.
On peut même parler d'une double discrimination, celle que souligne le livre, c'est d'être femme. Ça, on a commencé à beaucoup en parler depuis quelques mois, depuis l'affaire Weinstein, depuis ce hashtag MeToo et le Time's Up qui a été lancé par la suite. Et noir, c'est une couleur de peau différente ou qui semblait dissonante pour ceux qui vont réaliser les castings, ceux qui vont choisir leurs actrices, désirer certaines actrices pour des rôles ou des personnages, plus effectivement cette question des femmes. Donc là, c'est le double gagnant en fait, quand on a les deux, ou la double peine.
Alors je me refuse à utiliser le terme double peine, parce qu'à la base, moi je ne suis pas en souffrance du fait d'être femme, ni du fait d'être noire, je suis très très bien avec tout ça. Mais c'est vrai que le regard qui est posé sur cette différence de couleur de peau, c'est quelque chose qui m'interroge depuis très longtemps. J'ai grandi en France, je suis allée à l'école de la République, dans laquelle on m'expliquait qu'on était tous pareils. Et au-delà de la couleur de la peau, ce qui nous a intéressé, c'était de parler de ce que c'est qu'être une femme, donc dans une position qui est défavorable, puisque la plupart des gens qui décident dans le cinéma sont des hommes. Et puis, le fait de parler du fait qu'on est noir, ça permet aussi de parler de toutes les autres différences. Ça parle d'une chose qui est ne pas correspondre à la norme. Et la condition féminine de l'actrice et la condition de celui qui reste considéré comme étranger parce que sa couleur de peau est différente sont abordées de façon très générale à travers les témoignages d'actrices noires, à travers ce cas particulier du cinéma français.
Les 16 actrices qui témoignent dans ce livre, celles que vous avez réunies autour de vous, racontent les petites phrases piquante, assassine, qui blesse, raconte aussi les rôles qu'on ne vous propose pas, raconte les castings où vous vous pointez quand même et on vous regarde comme un extraterrestre arrivant là pour un rôle de Phèdre, de Bérénice, ou beaucoup plus contemporain et qui ne semble pas du tout coller à votre apparence. Est-ce que vous avez quand même ressenti à travers les témoignages de vos consoeurs et amis une différence générationnelle entre une Firmin Richard et vous aujourd'hui ou d'autres qui écrivent? Est-ce que les choses évolue petit à petit et la prise de conscience se fait au sein du milieu?
Les choses évoluent extrêmement lentement, beaucoup trop lentement. J'ai choisi aussi d'inviter ces actrices aux âges différents, aux parcours de vie différents. Certaines viennent d'Afrique, d'autres des Antilles. Certaines sont arrivées adultes en France, d'autres au contraire ont grandi ici, pour montrer d'abord que la figure de la femme noire, c'est quand même une invention. Ce qu'on constate à la lecture, c'est que les choses que j'ai pu traverser, ou qu'une Firmin Richard ou France Zobda ont pu traverser, des jeunes filles de 20, 22, 24, 25 ans le vivent encore aujourd'hui. La différence, c'est peut-être qu'il y a un peu plus d'acteurs noirs, même s'ils ne sont pas visibles, peut-être qu'on est un petit peu plus nombreux. Mais finalement, le regard posé sur le corps, comment dire, le corps des femmes noires est souvent considéré comme étant proche de l'animal, avec une sexualité qui est supposée être tout à fait débridée. Enfin voilà, il y a tout un tas de clichés, de fantasmes qui existent encore aujourd'hui.
Il y a un moyen de changer les représentations. C'est peut-être de se saisir soi-même de la caméra comme d'une arme, oui. C'est-à-dire de projeter, de décider de projeter soi-même les désirs ou les représentations qu'on a envie de voir sur un écran. Hasard ou pas du calendrier, le réalisateur de Black Panthers, Ryan Coogler, était l'invité du festival pour une masterclass la semaine dernière, après ce succès phénoménal du film aux États-Unis mais partout dans le monde aussi. Ce succès, je ne sais pas comment vous l'expliquez, est-ce que c'était pas l'énorme attente qu'il pouvait y avoir justement en termes de représentation pour les Afro-Américains, mais pas seulement?
Tous les acteurs et toutes les actrices n'ont pas ni l'envie, ni forcément le talent de s'emparer d'une caméra, d'écrire un scénario. Et pour moi, renvoyer les acteurs à cette responsabilité-là, c'est aussi déplacer justement la responsabilité. Pour moi, il y a un devoir du cinéma français, du théâtre français, de la télévision française aujourd'hui, de s'interroger véritablement sur le fait qu'elle est une machine à exclure et pourquoi. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Et pour moi, c'est une question à laquelle on ne doit pas échapper. Parce que le cinéma, c'est censé être en tout cas une sorte de miroir. Et surtout, c'est un microcosme qui raconte aussi ce qui se passe dans beaucoup d'autres endroits dans la société française. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des signaux qui sont extrêmement positifs. Et puis bon, moi je suis très très optimiste, je suis faite comme ça, quasiment dans toutes les situations. Mais là, c'est vrai que la réalité, voilà, j'ai pas besoin de forcer mon optimisme. Le Black Panther et ce que ce film raconte, et surtout la façon dont il fait exploser les clichés. Aux États-Unis, les Américains noirs se sont souvent entendus dire qu'on ne pouvait pas les prendre dans tel ou tel rôle parce que le film n'allait pas s'exporter. Le public, le fameux public encore, n'était pas prêt. Et il a fallu le bon film au bon moment pour tordre le cou à ces idées reçues-là. Donc c'est vrai que c'est très encourageant de se dire qu'aujourd'hui, les héros des films, les personnages centraux, peuvent véritablement être de toutes les couleurs. Et que plus que jamais, il est question de raconter des bonnes histoires et de permettre à tous les talents de s'exprimer.
Un Black Panther français qui décoincerait un peu la situation, il parlerait de quoi pour vous? Il évoquerait quels clichés? Il les battrait en brèche comment?
J'ai du mal à imaginer un Black Panther français parce que pour moi, Black Panther, c'est tellement américain. Et surtout, je crois que on a vraiment quelque chose à inventer ici. On n'a pas la même histoire que les États-Unis. On est un pays différent, une réalité différente. Et je crois qu'on a vraiment tous les outils, on a tous les talents, tous les outils. Et on a les moyens, on a une industrie cinématographique, réellement. Enfin, il n'y a aucun cas comme ça en Europe.
Concordance des temps, une autre, c'est le retour sur la croisette du réalisateur de Malcolm X avec BlacKkKlansman, j'ai du mal à le dire, le nouveau film de Spike Lee sur l'histoire d'un policier afro-américain qui a infiltré le Ku Klux Klan à Colorado Springs dans les années 70. Alors là, c'est le retour ici sur le tapis rouge d'un réalisateur américain, figure de la cause noire aux États-Unis et au cinéma. C'est fou comment les États-Unis arrivent à produire justement ce type de figure, à se trouver des porte-paroles, y compris dans la fiction. Et nous, en France, alors c'est peut-être là où il y a vraiment une place à prendre, on est encore au balbutiement de ce réveil, de ces prises de conscience, non ?
Oui, c'est vrai que Spike Lee, il a ce... Pour moi, vous parliez de double peine tout à l'heure, femme et noire, et lui, il a cette double force qui est qu'il a un regard sur ce que les Américains appellent la race et sur le genre aussi. C'est un cinéaste qui a toujours été féministe, qui a toujours développé des personnages féminins très forts dans ses films. Et en même temps, je crois que c'est très difficile en France de penser ces questions-là parce qu'il y a une sorte de tabou sur l'identité, la race, comme disent encore une fois les Américains, Et c'est vrai qu'une des questions qui revient chez certains journalistes, mais c'est une question qu'ils posent comme s'ils connaissaient déjà la réponse. Sans beaucoup de conviction, certains journalistes nous demandent si, bon, c'est pas un peu communautariste de faire un livre avec uniquement des femmes noires. Et le simple fait que la question se pose, alors que le livre ne parle que d'inclusion, d'égalité, d'ouverture, de vivre ensemble, ça montre qu'il y a un réflexe conditionné dans la pensée française qui peut même communautariser certaines populations.
En fait, c'est vous qui excluez.
Voilà.
Et puis ce livre, Noir n'est pas mon métier, il aura aussi une suite, un documentaire que vous avez commencé à tourner sur la représentation des femmes noires dans le cinéma occidental et un collectif.
Oui, on a créé un collectif. Il s'est créé très naturellement autour du livre, les 16 actrices... d'abord, on a été réunis autour de l'écriture, du développement du livre, et puis autour de la construction du projet Canois. Et il semblerait, mais je ne veux vraiment pas m'avancer parce que c'est trop prématuré, qu'il y ait d'autres projets qui émergent, qui soient des projets créatifs ou des projets plus militants.
France Culture.
Local au circo.
La grande table en direct du Palais des Festivals.
Always have to be about you, Sancho.
Odyssée à 14702 et prima.
Olivia Gisbert.
Presque 13h10, France Culture dans le noir aujourd'hui. L'Américain Ryan Coogler, star de cette 71e édition, il a signé, il faut le dire, cette année l'un des plus gros cartons au box-office de l'histoire du cinéma. Un film sorti en février dernier, Black Panther. C'est plus d'un 1,3 milliards de dollars de recettes dans le monde. C'est près de 700 millions de spectateurs aux États-Unis et au Canada. 3,5 millions en France. C'est-à-dire énorme, énorme succès pour ce film Black Panther. De quoi faire quand même quelques jaloux avec la présence de ce réalisateur Ryan Coogler, Henri Leblanc, ici à Cannes.
Oui, d'autant plus que Ryan Coogler, il faut le noter, n'a que 31 ans. Il vient du cinéma militant. Il s'était fait remarquer à Sundance en 2013 avec Football Station sur un jeune noir tué par la police. Il a donc signé cette année Black Panther qui a trouvé une résonance internationale auprès des spectateurs. Il faut dire que c'est le premier film avec un super héros noir et avec un casting composé quasi exclusivement d'acteurs noirs. Il répond donc à une vraie attente du public et marque un tournant culturel dans l'industrie du cinéma. Le film est sorti dans un contexte où l'actualité était riche en revendications des droits civiques, le mouvement Black Lives Matter contre les violences policières aux États-Unis et concernant la représentation des noirs au cinéma, on pense aux Oscars So White en 2016 où aucun film avec un cinéaste noir n'était représenté.
Voilà, il y aura un avant et un après Black Panther, c'est ce qu'a rappelé aussi le réalisateur Spike Lee. Ryan Coogler, il était donc à Cannes pour une masterclass et la projection du film au cinéma de la plage, des conditions idéales. Et vous l'avez rencontré, Henri Leblanc. Moteur ?
Moteur.
The Black Panther has protected the world for generations.
It is your time.
Step into the spotlight.
The world's gonna start over.
I'm gonna burn it all.
Is this your king?
Bonjour Ryan Coogler.
Bonjour.
Après coup, comment analysez-vous l'ampleur du succès mondial de Black Panther ? Est-ce que vous aviez perçu tous les thèmes que ce film abordait ?
You try to start with themes whenever we're working on a project.
Ben oui, on s'en doutait un peu. Il faut dire qu'avec mon collaborateur Dames, avant même d'écrire le scénario, on essaie de voir justement quels thèmes on va explorer, et ces thèmes que nous voulons explorer sont en fait ceux qui motivent l'intrigue. Et puis c'est un peu comme une espèce de cartographie, c'est un projet sur 2 ou 3 ans, on peut un peu se perdre en route, et il faut se dire, voilà, on avait au début du projet tel ou tel thème, il faut s'y tenir, on a le droit de changer d'avis, et on peut faire machine arrière, parce que c'est après tout un grand film avec beaucoup de personnages. Mais oui, il y avait pas mal de thèmes qu'on avait déjà présents à l'esprit. Est-ce que c'est à moi de surveiller mon frère, am I my brother's keeper, enfin, ce genre de grand thème presque fondateur. Mais ensuite, il y a d'autres sous-thèmes qui sont apparus au fur et à mesure. Autre thème important, l'isolationnisme par rapport à la diplomatie, l'innovation contre la tradition. Bon, ça, ce sont des thèmes qui sont survenus pendant que nous étions en train de tourner. On s'est rendu compte, notamment la notion de la technologie qui a toute sa place dans le film. Mais enfin, on était conscient de cela. Mais ce qui est sympathique, c'est que le public découvre d'autres thèmes que nous-mêmes n'avions pas présents à l'esprit au moment de nous lancer dans le projet, au moment du tournage. Mais bon, c'est un processus naturel.
Avec Black Panther, il y a une grande prise de conscience de la place des Noirs dans le cinéma américain, et même mondial. Est-ce que la deuxième étape, ce n'est pas maintenant d'arriver à dépasser ça ? Comment faire en sorte que la couleur de peau ne soit plus un enjeu ou une question ? C'est-à-dire d'être visible autant que les Blancs et en même temps invisible. Ne pas être cantonné à des rôles pour sa couleur de peau, mais pour son talent.
Mais bien entendu, en tout cas théoriquement, ça devrait être ça, l'étape suivante. C'est ça qui devrait nous motiver.
Il
faut dire que bon, ça ce serait dans un monde idéal, et le monde est compliqué. Le cinéma, c'est un art visuel, mais c'est également une industrie. Il y a des choses qui réussissent commercialement et d'autres pas, et il y a toujours un certain risque que l'on prend en faisant quelque chose de nouveau. Alors si par exemple dans un film précédent certaines choses n'ont pas réussi, bon, ben, dans le film suivant on fera ça différemment. Donc il y a d'autres considérations, hein. Il y a effectivement des considérations commerciales et pas simplement artistiques ou politiques. Et dans la question de race, évidemment, c'est quelque chose quand même de très très complexe, et ce sont des questions, enfin il y a des gens qui ont passé leur vie entière à étudier ces questions et qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Donc ça n'est pas si simple que ça, hein. Je veux dire, c'est vrai, ce serait bien de pouvoir dépasser tout cela et dire voilà comment les choses devraient être. Mais bon, en théorie peut-être, mais dans la pratique c'est quand même assez compliqué, et il faut voir que bon, il faut tenir compte des opportunités qui se présentent. C'est vrai qu'on devrait pouvoir dépasser tout cela, mais là on est encore en plein dedans quand même.
Spike Lee revient à Cannes avec son film Black Landsman après 27 ans d'absence. C'est un symbole, c'est le premier cinéaste à avoir questionné l'Amérique sur les droits civiques des Noirs. Que représente-t-il pour vous ?
Je
veux dire, pour moi, Spike, c'est sans doute l'un des cinéastes que nous admirons tous. C'est-à-dire qu'en tout cas, le cinéma américain, le nom de Spike est connu de tous, surtout de ma génération. Hein. Nous avons grandi, pour ainsi dire, avec les films de Spike Lee. Hein. C'était lui qui m'a... Il a fait des vrais chefs-d'œuvre qui m'ont inspiré, qui m'ont... Do the Right Thing, par exemple. Mais, et il y a des films qui n'ont pas pris une ride. School Days, par exemple, il reste d'actualité 20 ans après. Il a une façon également de renverser les rôles de manière très intéressante, de nous interpeller. Il a fait des films de genre qui restent des films d'auteur, c'est des films de Spike, mais en même temps, ils vont au-delà, il y a quelque chose d'autre. Donc ce qui est formidable avec Spike, c'est que, bien sûr qu'il a fait énormément de choses, il a touché à toutes sortes de thèmes, mais il reste lui-même. Il est toujours Spike Lee, il laisse sa griffe, sa signature sur toutes ses œuvres. Depuis Do the Right Thing ou She's Got to Have It, il est resté toujours égal à lui-même dans sa façon de raconter des histoires. Et il faut s'immerger dans son œuvre.
Ryan Coogler, comment faire un cinéma universel, c'est-à-dire un cinéma qui s'adresse à tout le monde? Et plus personnellement pour vous, pourquoi faites-vous du cinéma?
On peut faire des films qui soient universels, mais en même temps, les films universels sont paradoxalement très spécifiques. Et c'est par leur spécificité qu'il parle à tout le monde, c'est parce que et paradoxalement, les films qui ont l'air, qui n'ont pas l'air spécifique en surface, eux ne parlent pas à tout le monde justement, parce que le vrai monde n'est pas comme ça. Pour faire quelque chose qui soit vraiment universel, il faut arriver à faire quelque chose qui parle vraiment aux gens. Alors, il y a deux extrêmes. Par exemple, la mythologie. Vous avez des films de super-héros. Bon, ça, c'est une forme de mythologie qui pourrait paraître universelle. Mais il y a des films fantastiques, par exemple, ou des films, je ne sais pas, des films qui travaillent sur les mythes. Ces films, tout le monde les comprend. Tout le monde a la notion d'un mythe ou d'une mythologie, ou des concepts tout simples, comme le concept de l'amour, évidemment. Ça, c'est quelque chose d'universel. Enfin, tout le monde, alors, d'un bout à l'autre, par exemple, de la mythologie la plus recherchée jusqu'au thème le plus basique comme celui de l'amour, il y a toujours une... quelque chose dans lequel on se retrouve. Je crois que c'est ça qui ferait un film universel. Moi, pourquoi je fais du cinéma? D'abord parce que j'adore faire des films, mais également voir des films. Et puis surtout, je me reconnais dans les films et je me reconnais également dans les gens qui travaillent devant ou derrière la caméra. C'est quelque chose qui, on se retrouve. Ce sont des points de vue que je reconnais dans ces œuvres, dans ce travail. Et pour moi, pouvoir à mon tour faire des films pour les autres, c'est ce qui me passionne. Je crois que c'est pas simplement pour moi-même, mais pour tout le public qui, à son tour, essaye d'exprimer des idées ou de reconnaître des idées à l'écran. Voilà, c'est le fait de participer activement à cette expérience. Et c'est peut-être pour ça que je fais du cinéma.
Merci Ryan Coogler.
Thank you, merci.
Entretien cannois avec le réalisateur Ryan Coogler, mené ici par Henri Leblanc et traduit par Robert Wolfenstein.
France Culture, La Grande Table, en direct du 71e Festival de Cannes.
Caméra.
Olivia Gesbert.
13h18 sur France Culture, on ouvre notre séquence des critiques avec Michel Simon, bonjour.
Bonjour.
En dialogue aujourd'hui avec Cristina Piccino, spécialiste cinéma au quotidien italien, Il Manifesto, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour Ryan Coogler, Spike Lee est une figure phare du cinéma afro-américain, un modèle. Pour Spike Lee, il y aura un avant et un après Black Panther. Ces deux-là étaient faits pour être réunis dans une même séquence cannoise. Et justement, le dernier long-métrage, intitulé Black Klansman, du réalisateur de Malcolm X, vient d'être dévoilé. Adaptation d'un livre, celui de Ron Stallworth, le premier policier afro-américain à s'être infiltré dans les rangs du Ku Klux Klan. C'est donc un livre, c'était un livre, c'est maintenant un film signé Spike Lee, extrait.
Hello, this is Ron Stallworth calling.
Well, who am I speaking with?
This is David Duke,
Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke?
God, last time I checked. What can I do you for?
Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins.
I'm happy to be talking to a true white American.
God bless white America.
Bon, Michel Simon, ce film et la présence de Spike Lee ici, c'est d'abord quand même un grand symbole, le retour d'un grand réalisateur aussi, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Est-ce pour autant un grand film, puisqu'on use de superlatifs aujourd'hui ?
Non, je pense pas du tout. Quand on pense à Do the Right Thing ou Jungle Fever, c'était des films impressionnants, de vitalité, de complexité même. Enfin, bien sûr qu'il y avait toujours des prises de position très fortes de Spike Lee sur les problèmes des Noirs, mais néanmoins, il y avait une vitalité, encore une fois, une complexité. Tandis que là, c'est un peu l'anti-Godard. C'est-à-dire, Godard, je n'avais vraiment pas compris grand-chose à son message ou à sa philosophie. Ici, j'ai tout compris tout de suite. C'est-à-dire, c'est un film qui martèle, et je suis tout à fait d'accord avec Spike Lee. Il est évident que personne n'est pour le Ku Klux Klan, ni pour le racisme, etc. Mais tout est martelé, souligné pendant 2 heures. C'est vraiment une sorte de cours, une sorte de l'agit-prop, comme je croyais qu'on n'en faisait plus. Alors évidemment, ça a sans doute une nécessité. Je ne vais pas dire que le film n'est pas utile. Mais personnellement, je pense qu'on est dans un festival de cinéma. Et vous savez, Benjamin Perret avait écrit un pamphlet après la guerre sur les poètes de la résistance qui écrivaient des vers de Mirliton. Rien ne justifie le mauvais cinéma ou le cinéma médiocre. Donc j'ai été extrêmement déçu par ce film.
Christina Piccino, on lui reproche aussi un peu à Spike Lee dans ce film le mélange des genres, hein, c'est-à-dire les gros rires dans un film dont la trame dénonce quand même le racisme, l'antisémitisme d'une partie de l'Amérique blanche hier et aujourd'hui encore.
Oui, mais en fait, moi, je ne m'attendais pas énormément, en tant que je ne suis pas trop fan de Spike Lee depuis un bon moment, depuis toujours peut-être. Mais je trouve que quand même, il reprend son rôle par rapport à ses débuts, c'est-à-dire à la fin, au début, tout au début, lui, il a essayé de mettre les Noirs américaines au centre de son film, inventer un rôle, des personnages, un univers dans lequel une certaine communauté se pouvait identifier ou se retrouver. En même temps, le fait que vous avez parlé à tout à l'heure de Black Panther, je trouve que ça dit déjà à la clé du film. C'est-à-dire, ce que lui, il essaie de faire, c'est de prendre en genre la Black Exploitation qui était Pam Grier ou bien Melvin Van Peebles' père et de la mettre dans un contexte populaire. Populaire, ça veut dire comédie, des choses un peu plus simples qui arrivent direct. D'un côté, il y a l'urgence du moment, l'Amérique, les États-Unis dans la présidence du Trump, le fait qu'ils décident de terminer avec des rushs des infos. Donc, il est dans l'urgence, mais en même temps, il essaie de trouver une clé populaire pour parler avec tout le monde et pour faire si que ça arrive à tout le monde, son message.
Oui, c'est
de
ça,
là,
parce que
il faut quand même dire que, le film que se j'aime termine. Les films, c'est autre chose.
Il faut dire que le film se termine sur cette séquence d'images d'actualité de ce qui s'est passé à Charlottesville, plus des discours de Trump.
C'est, ça, c'est si on n'avait pas compris. Ça, c'est très fort. Voilà. Mais effectivement, ça enfonce le clou. Non, moi, ça me gêne pas du tout dans le film qu'on fasse de la comédie, même exagérée, burlesque, sur un sujet grave. Parce que Docteur Folamour, par exemple, on peut pas dire que la bombe atomique soit un sujet léger. C'est une menace pour l'humanité. J'adore Docteur Folamour, qui est une farce sur la bombe atomique. Donc c'est pas ça que je reproche à Spike Lee. C'est son insistance, la lourdeur de la démonstration.
Bon, c'est quand même le retour sur le tapis rouge d'un grand cinéaste des années aussi 90. Aujourd'hui, en 2018, dans la sélection américaine et en sélection officielle, un autre film, Under the Silver Lake, présenté hier soir, troisième film de David Robert Mitchell. Là, c'est la jeune génération, à Cannes.
Oui, Michel alors Simon. La jeune génération avait été découverte par la Semaine de la Critique. Ses deux premiers films ont été sélectionnés à la Semaine de la Critique. Le troisième peut pas l'être puisque c'est seulement les premiers et les deuxièmes films. Donc il est récupéré en compétition, malheureusement, pour un film inférieur, à mon avis, à ses deux premiers films. C'est une sorte de dévocation du Los Angeles des années 70. Au début, on pense à The Long Goodbye, le merveilleux film de Robert Altman, avec les femmes au sein nu qui sont sur un balcon près du personnage principal. Il y a la New Wave, il y a la nouvelle philosophie, il y a beaucoup de sujets. J'ai trouvé le film assez composite et pas vraiment convaincant, même s'il y a énormément de tentatives d'originalité. Je dis pas que le film est indifférent.
Et de votre côté, Christina ?
Moi, malheureusement, cet matin, je l'ai raté.
Vous l'avez raté, mais vous n'avez peut-être pas raté grand-chose, nous dit Michel Simon.
Oui, mais je n'avais pas déjà trop aimé son précédent, It Follows, celui-là qui était la semaine de la critique. Mais celui-là, c'est vraiment un cinéaste générationnel. Beaucoup de gens l'aiment beaucoup. Adorer It Follows et attendaient énormément celui-là. Après, je ne peux pas dire trop parce que je l'ai raté.
Non, mais alors, ce qu'on peut quand même peut-être évoquer là ensemble, c'est cette pêche un peu maigre intègre du festival dans la sélection américaine et ça a peut-être une explication. Beaucoup de grands studios américains ont préféré préserver leurs films de la critique et sauter l'étape cannoise pour aller direction les Oscars. C'est plus valorisant pour un film. Christina,
moi je crois qu'il y a des choses. En fait, je ne sais pas si c'est l'étape cannoise ou pas. En fait, Venise, il y a quelques années, il avait du mal aussi à voir les grands films américains qui depuis quelques années sont à nouveau là. Et par contre, Venise, ça fait pas mal des éditions qui remportent l'Oscar même cette année avec The Shape of Water. Je crois qu'il y a aussi un marché qui a un peu changé, c'est-à-dire beaucoup de films américains décidant de venir ni à Cannes ni à Venise, ils vont direct à Toronto ou bien au Festival de New York. Et pourquoi? Parce que en première, c'est en question de budget. Émener les réalisateurs en Europe, ça coûte énormément, surtout au major qui doit avoir un certain standard de voyage et de tout ça. Après, pas mal de films vont être pas sortir en salle au mois de mai, c'est-à-dire qu'il faut revenir les réalisateurs en automne.
Voilà, et les Oscars c'est en février.
Et les Oscars c'est fin des années, ouais. Donc d'un coup, ça avait pas la peine de venir ici.
Un mot, Michel Simon.
Oui, c'est vrai que Xavier Dolan aurait dû être là, Jacques Audiard produit par les Américains aurait dû être là. Les Américains ne veulent pas risquer Cannes, qui est très loin des Oscars, alors que Venise récupère les films en septembre, début septembre, et c'est Toronto, puis la course aux Oscars, et beaucoup de Lions d'or de Venise ensuite ont gagné l'Oscar, ce qui pour les Américains est très important. Alors qu'à Cannes, ils risquent une démolition du film, une mauvaise accueil, ils ne veulent pas prendre ces risques.
C'est notre dernière table critique, Christina Piccino, de la semaine, ici, pour la Grande Table. On fera un retour sur le palmarès avec Antoine Guillot lundi dans la Grande Table. En attendant, cette édition, 71e édition du Festival de Cannes, vous laisse plutôt enthousiaste, froide?
Moi, j'ai vu quand même des bons films, même si pas tous les bons films ont été dans la sélection, mais ça, je crois qu'il arrive dans tous les festivals. On n'est pas obligé à voir les chefs d'œuvre qui est dans la sélection, heureusement. Sinon, les autres sections,
on arrive. Il y a eu des très bonnes choses aussi dans les sections parallèles?
Moi, je trouve qu'il y a eu quelques titres dans les sections parallèles intéressants, soit dans Les Certains Regards, soit à la Quinzaine, soit à la Semaine de la Critique. Je trouve que c'est pas facile de tout voir. La nouvelle grille qui était très discutée, surtout, je crois, par la presse internationale, avec les horaires, ça nous aide pas trop à voir les autres sections. Au contraire, ça rend la vie très compliquée. Mais il faut le dire que quand même, moi j'ai vu, par exemple, au Certains Regards, il y a un film magnifique, le film d'un jeune réalisateur chinois, Bi Gan, Voyage
Long
dans
Journey
les jours,
into the Night, hein.
Dans les nuits.
Et un autre film qui vous a plu, le Amine de Philippe Faucon, réalisateur
oui,
français.
Oui, Amine, qui était à la Quinzaine. Ouais. Et aussi à la Quinzaine, j'ai beaucoup aimé un film en italienne, Stefano Savona, qui s'appelle Savoni Road.
On laisse le mot de la fin pour Michel Simon.
Oui, moi je trouve le grand problème aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi des films sont en compétition, mais ça a toujours été le cas, mais beaucoup plus aigu maintenant. Et pourquoi des très beaux films sont dans des sections parallèles, des films ratés se retrouvent en compétition. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Par exemple, rien qu'à un certain regard, et je suis tout à fait d'accord sur ce film chinois de Bigan qui s'appelle Un grand voyage vers la nuit, qui est un film magistral, peut-être un des 4 ou 5 films les mieux mis en scène de ce festival, un metteur en scène chinois dont c'est le deuxième film. J'ai beaucoup aimé aussi Girl de Lucas Dont, qui est un Belge, qui est un film sur un transsexuel, un homme qui veut devenir une femme pour être une grande ballerine. C'est un film d'une délicatesse, d'une intelligence, d'une sensibilité. Et puis un film suédois réalisé par un Iranien qui habite en Suède, qui s'appelle La Frontière, et qui est un film sur des personnages, un homme et une femme, qui reviennent quasiment à l'animalité. C'est un film fantastique, tout à fait étonnant. Voilà, rien que cela. Et puis, à la Semaine de la Critique, Mes Batailles, qui est un film magistrat avec Romain Duris.
Et on aura l'occasion de reparler ensemble à Paris, parce que tous ces films vont finir par sortir en salle, et ce qui permettra au public et à ceux qui nous écoutent aussi d'aller les voir. En attendant, un grand merci à toutes les équipes techniques de Radio France qui nous ont accompagnés durant ces trois journées cannoises. Merci à Guillaume Rialan qui a chapeauté cette édition, à Henri Leblanc qui a tout préparé ici, aux équipes de La Grande Table aussi à Paris, à Somanina à la réalisation, avec à la technique aujourd'hui Sandrine Malon. Je vous dis rendez-vous demain en direct de Paris pour une nouvelle Grande Table avec notamment le journaliste Charles Anderlin à partir de 12h55. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Il est 13h30, l'heure pour vous de retrouver Sonia Cranlou, les pieds sur terre.